La grâce de Dieu, est le thème central de la Bible, le thème central de l'Évangile, le thème central du christianisme. Si nous voulons comprendre le message de l'Évangile, nous devons comprendre ce que la Bible dit de la grâce, sur la grâce de Dieu. Car l'Évangile de Jésus-Christ est l'Évangile de la grâce, nous dit la Bible. Parmi les dizaines et des dizaines de versets de la Bible qui nous parlent de la grâce, il y a un court passage de la lettre à Tite, la lettre de l'apôtre Paul à Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11, où l'apôtre Paul décrit la grâce de Dieu d'une façon unique. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Je voudrais, à la lecture de ce passage, essayer de répondre à trois questions qui se posent. Qu'est-ce que la grâce? Comment se manifeste-t-elle? Qu'opère-t-elle dans nos vies? Si selon le dictionnaire, le mot grâce se réfère à la beauté, au charme particulier de quelqu'un, il se réfère aussi et surtout à une faveur que l'on fait sans y être obligé. Elle est une mesure de clémence par laquelle la peine d'un condamné est supprimée, permettant à celui-ci de ne pas être traité selon ce qu'il mérite. Selon la Bible, la grâce est la faveur ou la bénédiction gratuite et imméritée de Dieu envers des êtres humains coupables. C'est l'attitude bienveillante de Dieu envers les hommes qui, malgré leur manquement, malgré leur désobéissance, leurs mauvaises actions, leur révolte contre Dieu, ne sont pas traités par celui-ci selon ce qu'ils méritent. Et le christianisme, contrairement aux religions dans ce monde, a comme base de son message la grâce infinie, merveilleuse, étonnante de Dieu envers des êtres humains pécheurs et perdus. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, toute la Bible nous montre un Dieu plein de grâce, plein de miséricorde, malgré le péché de l'homme et son rejet de Dieu. Il ne se laisse pas décourager par le mal des hommes. Il continue à faire grâce à ses créatures. Déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, lors de la manifestation de Dieu à Moïse au mont Horeb, retentit cette parole que le livre d'Exode nous rapporte. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Le mot grâce est le mot clé de tout le christianisme, tout l'évangile de la parole de Dieu. On trouve dans la Bible ce mot des dizaines et des dizaines de fois. Or, je pense que, selon ce que les théologiens nous disent, il faut faire la différence entre deux types de grâce. Il y a ce qu'ils appellent la grâce commune, à savoir que malgré le péché de l'homme partout présent dans le monde, malgré l'effroyable capacité de l'homme à faire le mal, malgré cela, Dieu continue à manifester sa grâce. Il continue, comme disait Jésus, à faire tomber la pluie, à faire briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu ne répond pas au mal par le mal. Dieu ne répond pas à la haine par la haine, comme nous le faisons souvent. Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu de grâce. Même si les hommes ne savent pas partager équitablement les ressources naturelles, la terre continue toujours à produire de quoi nourrir l'humanité tout entière. Et malgré toutes les horreurs commises sur cette terre, il y a encore par-ci et par-là quelques bribes de justice, de générosité, d'altruisme qui font que ce monde n'est pas que violence, destruction et désolation. Et cela, c'est grâce à la grâce de Dieu. Calvin avait raison de dire que la nature de l'homme, je cite, « bien que déchue et corrompue, ne laisse point toutefois d'être ornée de beaucoup de dons de Dieu. » C'est vrai, c'est l'image de Dieu en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que même s'il y a des choses horribles qui sont commises un peu partout sur cette planète, jamais aucun fascisme, jamais aucun totalitarisme, aucun athéisme n'a réussi à s'installer durablement dans le monde. Pourquoi ? Parce que Dieu continue à manifester sa grâce. Il continue à soutenir le monde. Il continue à l'aimer, il continue à s'occuper de lui. Même s'il laisse une grande marge de manœuvre à l'humanité pour faire le mal. Et hélas, l'homme profite de sa liberté pour faire le mal. Ceci dit, la grâce dont parle l'apôtre Paul ce matin dans ce passage et le beau chant de John Newton est la grâce en lien avec le salut de l'humanité, la grâce en lien avec notre salut, la grâce de la croix de Jésus-Christ, la grâce du salut. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains, nous dit l'apôtre Paul. Cette grâce, qui est bien sûr liée aussi à la grâce commune, n'est-ce pas, envers tous les hommes, c'est la grâce du pardon des péchés. C'est la grâce de la réconciliation avec Dieu. C'est la grâce du rétablissement du salut en Jésus-Christ. C'est la grâce du pardon des péchés. La Bible dit que nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme vit éloigné et séparé de Dieu. Il vit sans tenir compte de la volonté du Créateur. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché. Elle nous dit que nous sommes tous dans cette situation. Nous sommes et nous vivons séparés de Dieu sur le chemin large, le chemin qui conduit à la perdition. Or, bien qu'étant saint et juste, bien qu'haïssant le mal et l'injustice, Dieu décide de faire grâce à l'humanité. Il décide de pardonner, il décide de rétablir la relation avec l'homme. Et pour ce faire, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, parmi nous, dans le monde, prendre notre place à la croix, prendre sur lui nos péchés, les péchés de l'humanité tout entière. Jésus-Christ, pouvons nous dire, est la main de Dieu tendue vers nous. La main de Dieu tendue vers nous. C'est la manifestation, la plus grande manifestation de la grâce de Dieu. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. L'évangéliste Billy Graham raconte dans l'un de ses livres qu'il conduisait un jour sa voiture dans une petite ville au sud des États-Unis lorsqu'il a été intercepté par un policier qu'il a accusé d'être en excès de vitesse. Et donc il a été conduit au poste et il a demandé au policier, le policier lui a demandé s'il le reconnaissait, il l'a reconnu. Donc il l'a amené chez son chef et son chef lui a posé la même question: est-ce que vous plaidez coupable? Et lorsqu'il a plaidé coupable, le chef lui a dit: donc vous devez payer 5 euros, ça a été il y a déjà pas mal d'années, 1 euro pour chaque kilomètre de plus. Mais tout d'un coup, le chef a déclaré que l'homme qui était devant lui était le grand évangéliste Billy Graham. Et donc, il lui a dit: bon, vous avez enfreint la loi, il faut payer 5 euros, mais je vais payer de ma poche. Et il a pris son portefeuille, un billet de 5 dollars, et il a mis les 5 dollars avec la contravention. Et tout de suite après, il a invité Billy Graham à aller dans un restaurant à côté dîner. Et Billy Graham dit: voilà comment Dieu traite les pécheurs qui se repentent de leurs péchés. Au cœur de l'Évangile réside le message de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu qui ne désire pas condamner l'homme, la Bible dit, mais qui désire le sauver de ses péchés, le pardonner, le relever, le libérer de l'esclavage du péché. Pour illustrer la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus a raconté la parabole du fils prodigue. Vous savez, ce fils qui prend l'héritage, tout l'argent de son père et qui s'en va dépenser tout cet argent d'une manière dissolue. Il a vécu dans la débauche. Et quand il n'avait plus rien et qu'il se trouvait au fond du trou, il ne savait plus quoi faire. Et il s'est rappelé qu'il avait son père à la maison. Il s'est rappelé qu'il y avait la maison paternelle. Il a décidé de retourner à la maison de son père. Et il a décidé de dire à son père: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un simple ouvrier. » Et le père de ce jeune homme qui aurait pu, n'est-ce pas, en toute légitimité, traiter son fils selon ses actes, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de traiter son fils selon la grâce. Il décide de pardonner avec empressement son fils repentant. Et il invite toute sa maison à se réjouir, à faire la fête. « Réjouissons-nous, dit-il, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà ce que Dieu, dans sa grâce, fait aux pécheurs que nous sommes. Il nous accueille malgré le mal que nous ayons pu faire. Il tend sa main d'en haut vers nous pour nous faire sortir du trou dans lequel nous sommes et faire de nous de nouvelles créatures. C'est exactement ce qui s'est passé avec John Newton, n'est-ce pas? Cet homme était autrefois un non-croyant marchand d'esclaves. Fils de commandant maritime, né à Londres en 1725, Newton est devenu officier de bateau de guerre. Mais comme il a trouvé en certain moment que les conditions dans le bateau étaient détestables, il a décidé de déserter. Les conséquences ne sont pas fait attendre, n'est-ce pas? Il a été capturé, fouetté publiquement, dégradé au niveau de simple marin. Et il a été ensuite échangé sur un bateau passeur d'esclaves sur la côte de Sierra Leone. Il a été à plusieurs fois brutalisé. Et finalement, il a été sauvé par un capitaine qui connaissait son père. À son tour, il est devenu capitaine de son propre navire marchand d'esclaves. Or, un beau jour de 1748, son navire fait face à une terrible tempête. Une tempête qui a failli l'emporter. Et face à ce naufrage imminent et sans espoir de s'en sortir, qu'est-ce que Newton fait? Il se tourne vers Dieu, il s'écrie vers Dieu et lui demande d'avoir pitié de lui. Et finalement, il s'en sort sain et sauf avec son bateau, ses hommes et ses esclaves. Plus tard, il a abandonné le commerce d'esclaves. On sait qu'il a eu le privilège de rencontrer le grand évangéliste George Whitefield et John Wesley. Il décide de se mettre à l'étude de la Bible, de la parole de Dieu et de devenir prédicateur de l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Avec le poète William Cowper, il débute des réunions chaque semaine et il écrit un nouvel hymne pour chaque réunion. Et c'est à ce moment-là qu'il compose ce fameux chant « Amazing Grace » que nous avons entendu ce matin. On sait aussi que c'est lui qui a influencé Louis Belfort, n'est-ce pas, ce leader de l'abolition de l'esclavage. Newton, convaincu que la grâce infinie de Dieu le conduirait au ciel, a continué à prêcher l'Évangile jusqu'à son dernier souffle. De libertin et d'infidèle qu'il était, la grâce infinie et merveilleuse de Dieu l'a touché, y a bouleversé sa vie, l'a sauvé. Et depuis ce jour, il n'a jamais cessé d'être étonné d'avoir découvert la grâce de Dieu dans sa vie. On pourrait raconter l'histoire de Martin Luther aussi, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour acheter son salut. Un jour qu'il se promenait, il y a eu une violente tempête avec des éclairs du tonnerre. Un tonnerre qui tombe à côté de lui, qui le projette par terre. Il a tellement peur qu'il crie plutôt à une sainte, puisque son église lui disait de prier les saints, n'est-ce pas? Et finalement, il a fait un vœu. Si Dieu me protège, je vais devenir moine et je vais suivre toutes les règles prescrites par ma religion pour obtenir le salut. Il a renoncé à sa carrière. Il voulait être avocat pour gagner beaucoup d'argent et il a renoncé pour aller dans un monastère. Il a renoncé à toute possibilité de se marier. Il a commencé à jeûner plusieurs jours de suite. Il pratiquait une forme d'ascétisme très très dure, dormant en plein milieu de l'hiver sans aucune couverture, par exemple. Et il a écrit plus tard ceci: « Si jamais un moine avait pu gagner le ciel parce qu'il avait obéi à toutes les règles imposées par sa communauté, c'était moi. Si j'étais resté plus longtemps, j'aurais fini par mourir suite à toutes ces nuits de prière, de lecture que j'ai passées sans dormir, sans compter toutes les œuvres que je faisais pour rien. Mais je ne trouvais pas la solution pour mon âme. » Il a écrit aussi concernant la première fois, il a dit la messe, n'est-ce pas, où il a reconnu son état de pécheur terrible. Et il a dit: « Qui suis-je pour que je puisse lever mes mains et mes yeux vers le Dieu Tout-Puissant? Car je ne suis que cendre et poussière. Mon cœur est contaminé par le péché et je parle avec le vrai Dieu vivant et éternel. » Martin Luther est allé très loin pour renoncer à lui-même, pour essayer d'obtenir le salut en Jésus-Christ par les œuvres. Et il n'a pas réussi. Il a réussi un jour lorsqu'il a lu la parole de Dieu et qu'il a compris que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce de Dieu, la main de Dieu tendue vers moi et la mienne, la foi tendue vers la grâce de Dieu. Et quel soulagement le jour où il a découvert ce message central de la parole de Dieu. Comme Martin Luther, comme Newton et comme beaucoup d'autres, l'apôtre Paul, lui aussi, il a écrit ce texte, mais c'est un texte qui sort de son cœur parce que lui aussi, sa vie a eu deux temps, avant de connaître la grâce de Dieu et après connaître la grâce de Dieu. Et il a pu écrire ceci dans la première lettre à Timothée, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. » Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Voilà ce que la grâce a fait dans la vie de cet homme. Nous n'avons pas le temps ce matin de voir tout ce que la grâce de Dieu opère, mais terminons au moins par la lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Elle nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quand on comprend cette grâce de Dieu, quand on la reçoit dans notre vie change. On abandonne les désirs et les plaisirs, le matérialisme du monde. On vit pour le Seigneur, on vit pour lui. La grâce de Dieu nous aide à vivre une vie différente, une vie pleine d'espérance, de bonheur et de joie, avec la confiance que le Seigneur Jésus-Christ va revenir un jour pour nous chercher, pour chercher son Église. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Je voudrais poser la question aujourd'hui peut-être à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Qu'allez-vous faire de la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez compris ce message de la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez compris que vous ne pouvez rien faire par vous-même pour obtenir le salut en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout simplement par la foi la grâce de Dieu dans votre vie? Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter le pardon de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la Bible dit que nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'obtenir le pardon de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord de reconnaître nos péchés et d'accepter le pardon de Dieu, c'est-à-dire accepter sa grâce? En 1830, George Wilson a été reconnu coupable d'un meurtre. Le meurtre d'un employé de la poste lors d'un vol de courrier dans une ville aux États-Unis. Il a été jugé et condamné à mort, à être pendu. Et le président des États-Unis, à cette époque, a décidé de lui accorder sa grâce. Mais, bizarrement, Wilson a refusé la grâce présidentielle. Et personne ne savait comment faire, comment réagir. C'était quelque chose d'inédit, un homme qui refuse la grâce présidentielle. Et l'affaire a été présentée au juge qui est arrivé à la conclusion que Wilson devait être exécuté. Car, pour qu'un pardon soit valable, il faut que la personne accepte le pardon. Pour que le pardon soit valable, il faut que ce pardon soit accepté par la personne elle-même. Si la personne refuse, il n'y a pas de pardon possible. Et il déclara que George Wilson devait être pendu, et c'est ce qui est arrivé. Cet homme a refusé la grâce présidentielle. Il en est de même avec nous, avec le pardon que Dieu veut nous accorder. Est-ce que nous l'acceptons? Ou est-ce que nous le refusons? Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Dieu nous a fait une faveur incroyable. Qu'allons-nous faire de la grâce de Dieu? Nous allons chanter, cette fois-ci en français, « Grâce infinie ».